Salut à tous et bienvenue dans La Cartouche, le podcast Blueprint qui parle d'un ou plusieurs jeux vidéo. Aujourd'hui, on va en parler d'un. Je suis Lou et toi, c'est Yann. Salut Yann.
Salut Lou, comment ça va?
Bah écoute, ça va très très bien avec cette jolie petite musique. Je vais spoiler un petit peu ce que je vais dire à un moment, mais on se croirait vraiment sur Animal Crossing, là, j'ai l'impression. Franchement, on débarque sur la petite île. Je vois mon écran titre, je vois des petits animaux qui se baladent sur une jolie petite île bordée par la plage. On parle pas d'Animal Crossing, on parle de A Short Hike.
Hike.
Pour bien prononcer hike. Non, peut-être pas le prononcer comme ça va un petit
pas
peu
là. Non, okay.
A Short Hike. Donc voilà, donc un jeu qui est sorti sur Steam, qui est disponible depuis peu sur Switch également.
Ouais.
Qui est très mignon et dont tu vas nous en dire un petit peu plus déjà. Bah, quel est le genre de jeu? Qu'est-ce que c'est que A Short Hike?
Alors, qu'est-ce que c'est que A Short Hike? C'est un jeu de plateforme exploration 3D vu du dessus. Il a été créé par Adam Robinson Yu. On est vraiment dans le délire du jeu indépendant avec une personne qui est véritablement derrière. Tu l'as dit, il est sorti sur PC en juillet 2019. Je crois que c'est plutôt l'Epic Game Store. Je suis pas sûr pour Steam, mais je sais qu'il est sur l'Epic Game Store.
Ah, je me suis peut-être trompé, effectivement.
Il est sur
PC.
En tout cas, il était donné gratuitement sur Epic Game Store à une époque, ce qui n'est plus le cas maintenant. Malheureusement, ça n'avait duré qu'une semaine, comme d'habitude avec les promotions de cette boutique.
Alors, vérification, si tu me permets, du coup, en direct. D'abord disponible en exclu via le service Humble Monthly en avril 2019. Et il sort ensuite sur Steam et itch.io le 30 juillet.
D'accord. Eh bien, ça s'est fait de manière vraiment diffuse dans ce cas-là. Eh bien, il est sorti le 18 août, donc il n'y a pas si longtemps que ça, sur Switch 18 août de cette année, il faut bien le préciser. Il n'est pas cher, et vu son titre A Short Hike, vous verrez que c'est assez pertinent, il coûte 7€, et je l'ai terminé en une heure, mais je dois te l'avouer, mon cher Lou, j'y ai déjà joué 2 heures de plus.
Oui, parce qu'effectivement, il y a plein de petits secrets, on reviendra là-dessus. Mmh. Alors, l'une des spécificités, j'ai envie qu'on commence par ça, peut-être avant de parler du gameplay, c'est vraiment le style graphique qui je trouve moi personnellement, alors moi j'ai pas fait le jeu, j'ai regardé quelques vidéos qui m'ont vraiment donné envie de jouer au jeu, surtout qu'il est pas très long, donc autant craquer, je me suis pas trop spoilé. C'est un style graphique assez simple, assez mignon, qui moi me fait un petit peu penser en fait au jeu sur DS.
Mais carrément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il joue là-dedans à fond. En fait, l'idée, c'est que ça ressemble à de la DS, c'est-à-dire un côté très low poly, grands aplats de textures finalement assez peu détaillées, vraiment qui remplissent les différentes formes qu'on voit dans le jeu. Alors évidemment, on est dans un jeu assez naturel. Hein. On est sur une espèce de petite île avec sa grande montagne au milieu et on va explorer tout ça. C'est franchement doux pour les yeux, les aplats de couleurs sont assez sympas, et puis tu l'as dit, ça rappelle pas mal la Nintendo DS. On peut ceci dit régler le niveau de grain, le niveau, la résolution en fait à l'écran, et d'avoir quelque chose de plus ou moins pixelisé pour un effet plus ou moins DS ou plus ou moins génération actuelle, mais toujours évidemment avec ce style cartoon, aplats de couleurs qu'on lui reconnaît bien là.
Alors c'est quoi un petit peu l'histoire de ce jeu du coup? Quel est donc t'as parlé un petit peu du gameplay, mais l'objectif, le scénario on va dire.
Alors le scénario, je vais pas aller trop loin justement dans l'histoire parce que je veux pas vous la spoiler, mais le but, un petit peu comme dans le jeu de plateforme 2D cette fois-ci Céleste, le but c'est de gravir la montagne de l'île, donc Hawk Peak. Vous devez arriver au sommet, vous avez, allez je vais vous le dire quand même, un coup de téléphone très important à recevoir, vous appelez Claire. Vous êtes un oiseau et vous êtes en voyage ou plutôt en séjour sur cette île avec votre tante qui vous y a emmené. D'ailleurs, l'écran titre du jeu, c'est la voiture dans laquelle vous cheminez pour aller sur l'île. Donc c'est franchement mignon et très cosy dès qu'on lance le jeu.
Donc tu l'as dit, on incarne un oiseau, c'est moi ce qui m'a fait penser à ce côté aussi Animal Crossing, ces couleurs pastel, mais aussi ces animaux anthropomorphes très très gentils, tout ça, très mignons.
Tout le monde sont des animaux sur l'île.
C'est ça, donc c'est ce côté un petit peu finalement très très Animal Crossing qui participe aussi quelque part au gameplay. Le fait que tu sois un oiseau, c'est pas totalement gratuit parce que ça participe aussi à la façon dont tu te mouvois sur l'île.
Alors exactement, parlons-en du gameplay. On est donc clair, on veut grimper la montagne. Et comment est-ce qu'on fait pour grimper la montagne? Eh bien, on va devoir soit s'agripper façon Breath of the Wild, hein, on va être très clair là-dessus, au rebord, aux corniches pour pouvoir grimper, ou on va devoir voler. Et dans les deux cas, il nous faut de l'endurance. l'endurance. Et comme on est un oiseau, l'endurance, elle est représentée par des plumes d'or qu'on va pouvoir collecter, échanger contre de l'argent, gagner en réussissant des missions ou encore en les découvrant simplement dans l'univers, donc en explorant purement et simplement. Donc plus on explore, plus on récupère de plumes, plus on gagne d'espace à explorer. Alors je l'ai dit, on peut s'agripper, grimper, on peut également voler, on peut aussi planer. Et ça, c'est assez chouette. C'est quelque chose qui est d'autant plus intéressant à partir du moment où vous finissez, entre guillemets, le jeu, vous arrivez au sommet. Puisque d'une certaine manière, c'est là que l'aventure commence presque, en quelque sorte en tout cas, pour vraiment les gens qui ont envie de tout collecter. Il y a évidemment les plumes à collecter, il y en a beaucoup plus que nécessaire pour arriver au sommet, mais aussi plein d'autres petits objets. Vous allez par exemple vite découvrir un seau qui vous permet de prendre de l'eau, et l'eau va vous permettre de faire certaines choses dans le monde. Vous allez pouvoir récupérer une pioche qui va vous aider à vous dégager certains passages bloqués par des roches ou par des lames de bois mal placées. Bref, il y a cet aspect un petit peu, comment dire, presque Zelda-esque, où on va fourbir son inventaire pour pouvoir ensuite explorer plus largement le lieu, revenir à des endroits qu'on avait déjà explorés. Donc le gameplay tourne autour de ça.
Je vais spoiler un petit peu autour d'un objet quand même qui est à la fois très Animal Crossing et très Zelda. Mmh. C'est la canne à pêche quand même.
La canne à pêche, alors c'est intéressant parce que dans la sortie originale sur PC, elle a été ajoutée par DLC gratuit. Là, sur Switch, on bénéficie de la dernière mise à jour du jeu, donc c'est pour ça que c'est inclus. Mais la pêche et la canne à pêche, on a une petite quête de pêche où effectivement, pour récupérer un petit peu d'argent, on peut aller emmener à un marin un peu feignasse différents exemples de poissons. Eh bien, il faut aller effectivement circuler. Et la mécanique de pêche, on va pas se mentir, est la même. On plonge son petit appât en face d'ombre de poisson, on tire quand ça mord, c'est tout simple. Là par contre, il faut vraiment matraquer le bouton, contrairement à Animal Crossing où il suffit d'appuyer une fois. Mais c'est la seule petite différence, et ça se rapproche encore une fois de ce qu'on a vu dans Paper Mario Origami King d'ailleurs, où on a aussi des mini-jeux de pêche, qu'on a vu ça cet été en juillet. Donc voilà, il y a plein de petites choses en fait, si tu veux. C'est un collectathon dans lequel on a plein de petites activités au-delà de l'exploration, qui est vraiment l'activité maîtresse de A Short Hike.
Tu le disais, il y a plein aussi de quêtes finalement, mais aussi l'une des particularités, c'est que ces quêtes parfois sont totalement gratuites, dans le sens où tu rends simplement service à la personne sans qu'il y ait d'échange. Et c'est aussi une particularité du jeu finalement, d'avoir ce côté, j'allais dire, un peu promenade, un peu feel good, un peu lent.
C'est feel good, c'est bon sentiment, exactement. À plus d'un titre, je dis que c'est un vrai jeu du dimanche, c'est un jeu relax, c'est un jeu détente, mais c'est aussi un jeu mignon et positif dans tous les sens du terme.
Avec un rythme particulier, du coup, dans la façon dont on progresse.
Oui, parce que y a plein de manières, en fait, d'accéder à son objectif principal, qui est d'arriver au sommet. Il y a plein de manières, vu qu'on a un grand nombre de plumes d'or qu'on peut récupérer un petit peu partout, ben, ta façon loup de terminer le jeu et d'arriver au sommet sera pas forcément celle que j'ai eue ou celle que nos auditrices et nos auditeurs auront.
Alors du coup, on l'a déjà évoqué, c'est dans le titre aussi, Short Hike. Est-ce que c'est vraiment très très court? Donc tu l'as dit, une heure.
Oui.
Mais pour tout compléter, en revanche, tu tables sur combien de temps?
J'ai pas triché, je suis pas allé regarder sur howlongtobeat.com pour te dire la moyenne réelle. Y a des succès en fait dans le jeu qui sont un petit peu cachés, il faut aller chercher ça dans un menu, en tout cas quand on est sur la version Switch, puisque la Nintendo Switch n'a pas de système centralisé de succès. Donc il y a certains succès, je ne sais même pas ce qu'ils sont, donc je peux même pas vraiment te dire précisément. Je pense à vue de pif que pour tout récupérer, pour tout faire, ça doit être au total peut-être 5, 6, 7 heures dans ces eaux-là, suivant à quel point on est perspicace, suivant à quel point on est diligent et on récupère l'argent où il se cache un petit peu partout, parce qu'il y a aussi des trésors, il y a aussi simplement des piécettes qui sont réparties ici et là dans l'environnement. Et il faut être fin observateur hein, pour tout récupérer dans A Short Hike, quand bien même l'espace n'est pas aussi étendu qu'un Skyrim ou qu'un Breath of the Wild. Ça ne veut pas dire qu'il y a des petits secrets un petit peu partout, bien cachés, ou parfois simplement... cacher le nez au milieu de la figure, mais en tant que joueur, évidemment, on ne repère pas tout du premier coup.
Alors, en tout cas, dans le test de Luma sur Gamekult, elle a estimé, pour avoir la dizaine de succès, à, la huitaine de succès, pardon, une dizaine d'heures environ. Pour 7 euros, ce qui est quand même relativement très très bon marché. Hein,
il faut vouloir continuer à creuser un jeu qui, enfin, tu fais dans tous les sens du terme assez vite le tour de l'île du moment que tu apprends vraiment à planer et à gagner de la vitesse. Hein, donc, en termes purement de circonférence, hein, je dis bien. Donc, c'est une question de bien mémoriser les différents espaces, de savoir un petit peu potentiellement ce qui te manque à certains endroits ou de garder en tête un peu les différentes quêtes qui te restent à faire et puis explorer, beaucoup dialoguer avec. Les PNJ parce que c'est aussi par eux que certains objectifs sont cachés, donc il faut être un animal sociable dans A Short Hike.
joli jeu de mots.
Merci.
Finalement, c'est un jeu qu'on pourrait voir débarquer sur portable. Je suis en train de me faire la réflexion. Ce serait pas mal sur téléphone portable, sur téléphone mobile, ce jeu.
Bah écoute, pourquoi pas. Après, franchement, les contrôles seraient un petit peu casse-figure parce qu'encore une fois, on est quand même dans le domaine de la plateforme, de l'adresse. Et d'autant plus si on essaye de boucler la montagne avec un nombre limité de plumes, je pense que c'est compliqué. Moi, j'étais bien content en tout cas d'avoir des boutons et un stick.
Très bien. On a évoqué du coup au niveau de la réalisation l'aspect graphique, mais je pense qu'on peut quand même dire quelques mots sur les musiques. Alors
bien
effectivement,
sûr.
Le Paul de son prénom, j'ai oublié son nom, était seul à développer le jeu, mais il a été aidé par un certain Mark dont j'ai oublié le nom aussi également.
Mark Sparling et le développeur c'est Adam Robinson.
Ah, j'avais Paul en tête, écoute.
Eh bien non.
Paul et Mark.
Mark et Spencer, pourquoi pas, tant que tu y es. Non.
Et donc Marc à la musique qui est vraiment cette musique très Animal Crossing-esque si je peux me permettre. Alors je sais que les comparaisons c'est un petit peu réducteur parfois mais pour moi c'est vraiment un très beau compliment parce que je trouve que ce sont des morceaux absolument magnifique, très doux, très cosy. C'est typiquement ce que tu as envie d'écouter au coin du feu avec un chocolat chaud, la guimauve. On l'a vu dans l'intro de cet épisode. Moi, je trouve ça magnifique.
Enfin, et comme beaucoup de jeux, cette bande-son est évolutive en fonction des actions que ton personnage, Claire, réalise, si tu planes, si tu descends, si tu montes, etc. Il y a vraiment une petite adaptation de la musique, des motifs qui reviennent à différents endroits du jeu. Non, c'est très doux, c'est très mélodique. Et je trouve que là, la comparaison avec Animal Crossing est pertinente. Là où quand on parle de l'univers, quand on parle de des dialogues et des personnages, la comparaison avec Animal Crossing, je vois qu'elle est tentante parce qu'on parle d'un monde d'animaux anthropomorphes effectivement, mais il n'y a pas d'être humain et le propos est, je le trouve plus touchant finalement qu'Animal Crossing. Là où Animal Crossing, tu sais, c'est vraiment, tu développes une certaine familiarité avec les personnages, mais il n'y a pas de character development, il n'y a pas d'histoire dans Animal Crossing, il y a juste différents personnages qu'on apprend à connaître, qui ont eu une histoire avant, mais qui n'ont pas d'histoire qui progresse à partir du moment où tu as commencé le jeu, ou très peu. Dans ce cas-là, c'est que quelques PNJ un peu glorifiés et importants. Là, c'est différent dans un Short Hike. Alors évidemment, c'est un jeu court, donc ça reste dans une certaine limite, dans vraiment contraint à un certain, comment dire, à une certaine durée et forcément à un certain contenu, mais je trouve quand même que il est, j'ose le dire, plus intéressant qu'Animal Crossing sous cet angle-là, malgré sa durée réduite. Pour revenir un petit peu sur la réalisation, si tu le veux bien, parce qu'on a parlé à la fois des visuels et du son, d'un point de vue purement technique, c'est la version Switch donc, que j'ai fait. Elle est globalement fluide, avec quand même quelques petits ralentissements, mais rien pour gâcher. Vraiment, c'est dans certains cas où tu sens que le moteur du jeu a un petit peu de peine sur la Switch à tout charger d'un coup quand tu commences vraiment à bourriner, à planer assez vite et à charger un coin qu'il n'avait pas forcément prévu de charger en premier. J'ai eu des petits ralentissements comme ça, mais c'est resté très rare et c'est vraiment pas gênant, donc il n'y a pas de raison, si la version Switch vous intéresse, de ne pas la prendre. Après, évidemment, si vous le voulez sur l'Epic Game Store, sur Steam, sur Humble Bundle, allez-y, ça tournera très bien aussi. Et puis, je tiens à le dire, je tiens à le répéter pour les gens que ça peut irriter, le style très pixelisé à la résolution très faible, vous pouvez changer ça dans les réglages. Sur Switch, sur l'écran portable, vous avez le droit à 2 réglages, mais sur l'écran de télé, vous avez le droit à 4 réglages, parce parce qu'évidemment la résolution totale n'est pas la même. On passe de 720p à 1080p entre les deux types d'écran. Donc voilà là aussi pour le truc. Mais sincèrement, j'avais essayé d'y jouer parce que je l'avais récupéré gratuitement sur l'Epic Game Store et j'avais décroché et je trouve que l'avoir sur console portable, de l'avoir sur un petit écran, c'est le bon support, je pense, pour Shantaik. C'est le support idéal. Tu disais tout à l'heure, mon cher Lou, qu'il jouerait bien sur téléphone portable. Je te rejoins en tout cas là-dessus, non pas sur les contrôles, mais vraiment sur la taille de l'écran. Je trouve que c'est pertinent vis-à-vis du jeu lui-même, vis-à-vis du séquençage de jeu. N'importe quand, tu peux appuyer sur ton bouton pause et tu peux faire sauvegarder et quitter. Et c'est très appréciable parce que tu reprends littéralement là où tu t'étais arrêté dans les mêmes exactes circonstances. Donc non, il s'y prête très bien au jeu portable pour le coup, ça c'est tout à fait vrai. Un autre élément que j'aimerais évoquer, c'est la VF. Puisque j'y ai joué en français, habituellement je suis assez snob et je joue au jeu en anglais, mais là j'ai laissé la VF tourner. Et je dois dire, la VF est excellente, elle a été réalisée par une seule personne qui s'appelle Benoît Esmain, j'ai retrouvé son nom dans les crédits. Et félicitations à lui, elle n'est pas parfaite, je tiens à le dire sur un ou deux endroits notamment, il y a une phrase en anglais, je sais pas si c'est volontaire pour faire genre ou si c'est quelque chose qui est passé à travers les gouttes.
Petit oubli, ça peut arriver.
C'était surprenant, mais je trouve ça vraiment bien réussi. En plus, pour un jeu qui essaye de faire exprimer ses personnages dans une sorte d'argot détendu, d'avoir aussi bien passé de l'anglais au français et d'avoir quelque chose qui rende bien en tant que tel, c'est pas donné, et notamment pour des jeux indépendants, et c'est réussi. Le jeu dont on parlera dans le prochain épisode de la cartouche, il n'a pas une aussi bonne VF et il a été réalisé par une équipe, par un studio qui a 200 personnes dedans. Donc c'est avec un gros géniteur.
Je pensais pas, tu vois, tu m'étonnes.
Petit teasing, la semaine prochaine dans la cartouche, on parlera de Fall Guys Ultimate Knockout sorti sur PS4 et PC. Mais en attendant, on parle de Shantaik. oui, voilà, les dialogues sont vraiment rigolos. Chaque personnage rencontré a sa petite personnalité. Et ça, c'est encore une fois une réussite de cette VF, mais aussi évidemment de la VO qui a servi de base. Un conseil quand même pour vous, et c'est là peut-être aussi que j'ai fouté en y jouant la première fois sur la version Epic Game Store, il faut laisser un petit peu le temps de se perdre. C'est un open world, certes petit, mais un open world, et il faut pas avoir peur de se perdre un petit peu. Vous allez finir par vous repérer, vous allez finir par apprendre les différents environnements, les différents espaces, et comme le jeu de toute façon vous force une perspective de caméra, vous pouvez l'ajuster un petit peu, mais globalement elle vous la force, ça signifie que chaque endroit sur l'île, sur la montagne, va vite être reconnaissable aussi parce que l'angle va être le même sur ces différents environnements. Donc ça, pour le coup, ça marche très bien, et je tiens à le dire, et je vais en terminer par là, ce genre, ce format-là de jeu de plateforme 3D, sincèrement, on n'en voit pas assez, à mon avis, vraiment le côté vu du dessus avec le personnage qui se déplace comme ça. On a tendance à avoir une caméra assez classique, une caméra à la Mario 64, à la Mario Galaxy, qui se tient derrière le personnage, mais qui est finalement assez grand sur l'écran. Là, c'est un style différent, et je trouve qu'il devrait être beaucoup plus exploré par des développeurs petits et gros, voilà, tout simplement.
Donc, j'ai une pensée émue, mais toute proportion gardée pour Banjo sur Game Boy Advance, du coup.
Mais l'émotion n'est pas forcément positive.
Écoute, c'est Banjo, donc moi ça me fait toujours un petit quelque chose. Je me doute de la réponse parce que je sens ton sourire d'ici quand tu parles de ce jeu. J'ai bien capté aussi ce côté émouvant,
oui,
qui transparaît dans la façon dont tu en parles. C'est un jeu que tu conseilles, du coup.
C'est un jeu que je conseille fortement, d'autant plus vu le prix. Je veux dire, 7€, les amis, c'est tout à fait faisable. Évidemment, tout le monde a ses moyens, mais je veux dire, dans un monde où, visiblement, les jeux de prochaine génération PS5, Xbox Series X coûteront 10€ de plus... quand ils seront plein pot, je pense que un jeu comme ça, 7€, non, franchement, il vaut le coup. Je l'ai beaucoup apprécié, je vous le recommande chaudement. Si vous aimez la plateforme, allez-y. Si c'est pas vraiment votre cam, je peux tout à fait comprendre que vous vouliez passer à côté. Si vous aimez pas les univers mièvres, sympas, doux à la Undertale ou à la Animal Crossing, là aussi, je peux tout à fait comprendre que ce soit pas votre tasse de thé et que vous sautiez cette occasion. Mais pour toutes les autres, pour tous les autres qui nous écoutent, allez-y, Ocean's Hike, c'est très sympa. Et surtout, dans le monde très chargé dans lequel nous vivons aujourd'hui, aussi bien chargé en stress, en émotions tristes, c'est une bouffée d'oxygène. Et ça s'accompagne très bien d'une rentrée qui peut aussi être chargée pour vous, parce qu'encore une fois, c'est une heure et quelques de jeu pour arriver au sommet. Et puis ensuite, vous explorerez à votre guise.
Donc c'est parfait, vous l'avez compris, c'est le jeu idéal pour les mini-confinements, du coup, d'une dizaine d'heures maximum, effectivement. Si vous voulez vous faire un petit week-end chez vous tranquillement parce qu'il fait moche, et ben c'est le jeu qu'il vous faut. La cartouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Yann vous l'a dit, ce sera sur Fall Guys.
Yes.
Si vous souhaitez qu'on parle d'un jeu ou d'une série de jeux, ou que vous avez une idée pour un top, une liste, etc., dites-le nous en commentaire sur notre page La Cartouche. Cartouche sur Apple Podcast. Sur Twitter, vous pouvez suivre l'émission @lacartouchebp et nous, Alex le serveur pour moi et Inks HD pour Yann. À très bientôt, ciao.
Ciao, ciao. Et c'est l'heure de l'after show, mon
oui.
cher Lou.
Et en parlant de Short Hike, il y a un oui. jeu qui m'est revenu en tête et du coup je me le note, je me l'ajoute du coup pour cet after show. C'est juste qu'il y a le remaster de Braid qui a été annoncé oui. là il y a pas très longtemps.
C'est sur quoi, sur PS4 je crois. Hein.
Je sais plus exactement, je sais même plus où est-ce qu'il a été annoncé.
Ça.
Écoute,
vas-y.
Le temps passe si vite, il se passe tellement de choses.
C'était en début du mois dernier, c'était début.
C'était il y a une éternité, donc effectivement. j'ai une mémoire qui ne dépasse pas les 24 heures. Je dors, tac, nouvelle journée. C'est juste que du coup, ça m'a fait penser dans le sens où voilà, ce côté, alors je vais utiliser un mot que j'aime pas utiliser en général quand je parle des jeux. Jeu expérience, jeu poésie, tu vois, expérience, oui. poésie, tout ça. Les termes que j'aime pas trop utiliser parce que c'est souvent galvaudé. Mais, alors j'ai pas essayé A Short Hike, mais on sent que c'est de cet acabit, si.
Oui.
Et Braid, clairement, enfin, ça l'était. C'était, déjà un concept de gameplay assez intéressant. Donc, pour ceux qui le connaissent pas, c'est de la plateforme 2D, à énigmes, à résoudre avec un jeu sur le temps, la gestion du temps, globalement.
Plus que le temps, je dirais le déroulement, le séquençage des actions, parce que, enfin, oui, ouais. je vois ce que tu veux dire, mais enfin, c'est plus dans l'idée de.
Parce que je peux rembobiner, en gros.
Qu'est-ce qui arrive avant quoi et qu'est-ce qui a un effet sur quoi? C'est un jeu sur la causalité.
La mécanique de base, ça va être le rembobinage, en gros.
Voilà.
Mais après, t'as le gameplay. Qui en découle a tellement des variations hyper intéressantes avec bah, je pense à la bague qui ralentit davantage le temps autour d'elle. Enfin c'est il y a vraiment un gameplay qui est très intéressant et de savoir qu'il va ressortir. J'étais très content et je repensais à la fin qui était une fin vraiment. C'est même pas qu'elle était douce amère, elle était
mélancolique, enfin
presque douloureuse, je dirais la fin.
Mélancolico-dramatique, je dirais.
Ouais, c'est même pas poignant, c'est coup de poing en fait au sens propre. C'est une fin qui était véritablement presque brutale, je dirais, une espèce de prise de conscience assez incroyable. Ouais. Donc Jonathan Blow, hein, l'auteur du jeu. Beaucoup de gens s'attendaient du coup au Braid 2 quand ils ont vu les premières images, tout ça. Mais je suis déjà très très content que ce jeu sorte. C'était un jeu qui était sorti donc sur le Xbox Live Arcade
ouais.
et qui a signé vraiment. C'était le pinacle en fait de cette mode des jeux indés sur le Xbox Live Arcade et qui représente vraiment toute cette extrême vigueur avec d'autres titres. Je pense à Splosion Man qui est beaucoup plus simple mais qui était quand même très simple. C'était un jeu difficile malgré tout dans le gameplay mais qui était pas aussi profond en tout cas je dirais mais qui marque aussi la vigueur de l'époque et voilà c'est emblématique je dirais et ça fait partie je trouve d'une époque du jeu vidéo où on avait des choses à raconter au-delà du jeu vidéo, un peu comme BioShock en fait finalement, toute proportion gardée parce qu'évidemment BioShock c'est le triple A qui débarque.
Mais c'est marrant parce que là tu parles vraiment de l'époque 2006, 2007, 2008.
Mais tout à fait. Et je trouve que c'était vraiment une époque bénie au niveau du jeu vidéo. Et je suis content qu'on y revienne un petit peu à cette mode rétro parce que souvent quand tu dis le rétro, voilà, c'est la Super NES, la 64 à la rigueur, ça commence un petit peu. enfin je parle que des consoles Nintendo en plus, tu vois bien, enfin la PlayStation, tout ça, mais c'est bien que là on avance et qu'on se dise PS3, Flower par exemple, tu vois, genre de choses. Y a un moment où Journée va aussi du coup avoir ce petit côté rétro, mais j'aime bien qu'on redécouvre justement ces jeux qui ont marqué une époque. Et Braid a été véritablement marqué sur son année de sortie, ça devait être 2007 ou 2008, je
2008.
Sais plus exactement, 2008. Donc enfin il y a quelque chose qui s'est passé, tu vois, comme quand Left 4 Dead est sorti, genre
il a marqué chose, il a marqué sa décennie, et c'est un jeu vidéo important pour le coup. Il revient donc, le remaster sortira début 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Windows, Mac et Linux, donc partout.
Parfait. Donc vraiment, franchement, si vous le connaissez pas, si vous étiez trop jeune à l'époque, si vous êtes passé à côté à l'époque, il y a quand même peu de chances, je pense que vous en avez au moins entendu parler, mais non, il vaut vraiment le coup.
Carrément.
Rien déjà que pour son gameplay qui est juste incroyable, et aussi pour sa patte graphique, parce que le travail de remasterisation, le côté peinture, le côté œuvre d'art, vraiment c'est un jeu magnifique. Donc franchement, intéressez-y-vous, parce que c'est un jeu qui le mérite. Voilà, excuse-moi, je voulais vous
dire, non
ça m'est tombé dessus là quand on a commencé à parler de Short Hike, et je me dis waouh, faut pas que j'oublie ça quand même.
Mais très bien, on a parlé de Braid, c'est un excellent jeu, il le mérite totalement. Depuis la dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble, mon cher Lou, il y a une affaire énorme qui a défrayé la chronique dans l'actualité à la fois du jeu vidéo et de la tech. C'est évidemment le gros barnum entre Epic et Apple, je pense que t'es au courant.
Oui, c'était rigolo.
Et je pense
West France en a parlé.
Ça m'étonne pas.
Pour dire à quel point quand même que c'est quelque chose, tu vois.
Bien sûr.
Que la presse régionale, même si on a une vocation nat sur le web, en parle, c'est un sujet qui intéresse même le mainstream.
Et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont déjà entendu parler de cette affaire. Donc rapidement, Epic Games a sorti une mise à jour de Fortnite qui violait les règles de l'App Store d'Apple. Donc notamment le fait que cette mise à jour proposait aux utilisateurs de Fortnite de pouvoir acheter des V-Bucks, donc de la monnaie du jeu, sans passer par le formulaire de paiement d'Apple, et donc sans passer par la prise de 30% sur ces microtransactions qui iraient directement à Apple. Et ça, bah du coup, voilà, c'est en violation directe des règles de l'App Store.
Apple, quand tu vois le menu, tu te dis, alors, pour le même truc, est-ce que je paye 7 balles ou 8 balles 50 ?
Les statistiques montraient qu'il n'y avait qu'une moitié des gens qui sélectionnaient l'option moins chère.
Bah ça m'étonne pas quand tu vois les anti-masques, ce genre de choses et tout.
C'est intéressant aussi de voir un peu où
la
se situe
plate,
la confiance,
tu vois,
situe voilà. Simplement la confiance, est-ce qu'elle se situe du côté d'Apple ou est-ce que se situe du côté d'Epic.
Si, ouais.
C'est de voir un petit peu, parce que c'est effectivement un changement de comportement assez soudain pour des gens qui auraient l'habitude d'acheter des V-Bucks de cette manière-là. Mais bon, pour revenir à cette affaire-là, donc ensuite Epic a attaqué Apple en justice en disant « De toute façon, vous avez un monopole dégueulasse sur votre plateforme et sur vos plateformes », ce à quoi Apple a répondu « On est en droit de faire ce qu'on veut, on a la plateforme ». Il y a tout un débat autour de cette question-là. En ce qui me concerne, et juste sur la question très spécifique, et je sais que ça ne recouvre pas tout le débat, mais sur la question très spécifique du pourcentage qu'une société comme Apple peut prendre sur ce genre de transactions, sincèrement, je ne suis pas particulièrement gêné qu'ils prennent 30% sur Epic, tu vois, de toutes les sociétés, de tous les développeurs.
Ouais.
Epic, ça ne me gêne pas particulièrement sur une multinationale comme celle-là, avec de forts investissements. Enfin, Epic, c'est quand même énorme aujourd'hui. C'est Fortnite qui est le plus gros jeu vidéo du moment, je pense qu'on peut le dire sans trembler des genoux, avec évidemment un cash flow énorme, ne serait-ce qu'avec les Battle Pass, l'achat de V-Box, ce genre de choses. Là où je suis un peu plus gêné, c'est qu'effectivement, Apple prenne 30% sur des sociétés pour qui un rabais voudrait dire beaucoup. Un rabais voudrait dire plus de sécurité dans des temps économiques incertains, et Dieu sait qu'on les vit en ce moment, veut dire peut-être de pouvoir engager une personne de plus ou de moins, là où, sincèrement, pour une société comme Epic, ça fait pas une grande différence. La preuve,
après,
c'est qu'ils en sont là aujourd'hui, ils sont les rois du monde, alors qu'ils douillent 30% pour Apple.
Mais après, justement, enfin, pour Apple...
Oui,
c'est ça aussi, tu vois.
C'est ça aussi.
C'est le débat.
Que
30%,
oui,
c'est énormissime.
Alors,
c'est énormissime.
C'est énormissime, c'est le standard. C'est pareil chez Google, d'ailleurs ils ont aussi attaqué Google parce que Google les a dégagés pour la même raison, ils ont poussé la même mise à jour sur les deux plateformes, sur Android et sur iOS. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 30% c'est aussi le standard chez Nintendo, chez Sony et chez Microsoft dans leurs boutiques, boutiques qui sont également hégémoniques sur ces plateformes-là. Après, la parenthèse dans la parenthèse, c'est que contrairement par exemple à Sony, ou à Nintendo ou à Microsoft, Epic ne tire pas les mêmes avantages de leur relation avec Apple. Je ne sais pas si vous êtes allé en boutique un jour, mais vous avez probablement vu des packs PS4 ou des packs DualShock 4 avec du Fortnite. Y a des deals très à l'avantage d'Epic Games dans ces cas-là, et il n'y en a quasiment pas avec Apple. Donc, sincèrement, je pense que c'est moins une question de principe et plus une question de qu'est-ce que ces 30%-là leur rapportent à eux. 30% chez Sony, certes, mais des partenariats forts, des bundles consoles, ce genre de choses-là. Il n'y a clairement pas de bundle smartphone. T'as pas un iPhone Fortnite. Ça n'existe pas. Peut-être un jour, si c'est peut-être la voie pour eux vers une détente, mais c'est une question importante. Voilà, je voulais juste mettre de côté cette opinion-là. Je comprends tout à fait, et tu la remets en question, et tu la remets en question de manière très pertinente. Mais mon opinion est que si... le fait que Epic paye 30% permettrait que des plus petits développeurs payent moins, je pense que ce serait un équilibre intéressant.
Je pense que c'est aussi à Apple et
de manger
et
sa
Google,
marge.
Du coup. Oui, parce que un tiers, quoi.
Mais là, tu parles de notion morale, et la morale dans le business, c'est toujours quelque chose de très limité.
Non, mais après, oui, bien sûr, dans le business, mais effectivement, mais
changer la loi.
Non, c'est pas une question de loi, mais ça dépend ce que tu veux faire de ton business et tout. Mmh. C'est quand même des entreprises qui brassent des milliards et qui peuvent clairement faire un effort et un effort qui serait positif pour des studios de création qui eux par contre tirent souvent la langue et pour le besoin pour la santé, pour la créativité aussi, même pour la qualité des jeux pour ce qui sort, pour éviter qu'il y ait aussi autant de bouse, faut aussi que les gens puissent payer des gens, payer correctement des développeurs, etc. Pour pouvoir développer des titres de qualité. Donc je pense que ce serait plutôt vertueux quand même, et que Apple ne va pas n'en mourra pas, en tout cas.
Non, et puis franchement, s'ils peuvent, et là on parle aussi d'Apple comme une partie des autres grosses sociétés de tech qui font face à des enquêtes d'antitrust aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, au niveau de l'Union européenne, je pense qu'il y a peut-être un trade-off à faire en lâchant par exemple 30%, mais en gardant le monopole sur le store. Pour des raisons qui sont pas si mal, d'ailleurs,
bien sûr.
Je trouve.
Mais la question, c'est juste où va l'argent, tu vois. Est-ce que vraiment ces 30% sont extrêmement utiles à Apple, ce dont je doute relativement.
Ils sont utiles à faire gonfler la tranche de la tranche de bénéfices qui s'appelle service, et celle sur laquelle ils sont jugés pour leur performance, parce que c'est la seule qui est en augmentation exponentielle depuis la fin, on va dire, des années en or de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6S.
Ou est-ce que du coup cet argent ne circulerait pas plus et du coup ne serait pas beaucoup plus intéressant sur des petites structures, des petits créateurs, etc. C'est des questions de circulation. C'est le capitalisme,
totalement.
Mes chers amis. Hein, c'est où va l'argent, qu'en faisons-nous, est-ce qu'on l'utilise pour remplir des coffres ou pour faire travailler des gens?
Bon, voilà. C'est du capitalisme aussi, puisqu'on parle d'un plombier moustacheux qui récupère plein de pièces en traversant le monde. Tu aimes les super mondes de Super Mario Maker 2, ou en tout cas tu veux en parler?
Ouais, je veux en parler. Enfin, je les ai découverts il y a peu, parce que j'avais pas rejoué depuis les deux mises à jour majeures du
coup. Oh, tu as découvert Link!
J'ai découvert les Koopalings. D'ailleurs, je vais en parler vite fait des Koopalings. Je trouvais ça très très bien. J'adore les Koopalings, il faut le savoir. J'ai trouvé ça extrêmement amusant et étrange. Et je me suis interrogé de pourquoi ils ont refait le design des Koopalings dans la version Super Mario World. Alors peut-être parce que le design est un petit peu chum. Le design original des Koopalings dans Super Mario World. Ils ont fait un truc beaucoup plus proche du faux Bowser qu'ils ont créé, qui avait déjà été refait dans la version Super Mario World. Le design final de Mario Maker est vraiment pas mal. C'est juste que c'est pas le design original des Koopalings dans Mario World. Donc je m'interrogeais simplement. Donc j'ai découvert ça. J'ai découvert le Speedrun Ninja aussi. Que je trouve très rigolo. Très sympathique, ces petits ninjis.
Et il y a toujours des nouvelles épreuves. Je sais pas tous les combien de temps c'est, mais il y en a régulièrement.
Je crois. C'est, ça, c'est toutes les semaines.
Non. C'est toutes les deux ou trois semaines, mais pas toutes les semaines.
Ah, je croyais. Écoute, j'ai cru voir. En tout cas, il y en a 11 jouables en ce moment.
Je te garantis que ça fait pas 11 semaines qu'elles existent.
D'accord. Et en tout cas, ouais, c'est assez rigolo comme principe. Et j'ai découvert du coup les super mondes.
Oui.
Et avec des choses hyper inventives. Alors des gros caca aussi. On tombe sur des mondes de pas très intéressants.
L'interface est quand même un peu casse-gueule. Généralement.
L'interface du...
Pour les sélectionner, pour les retrouver, parce qu'ils sont associés par créateur. Enfin, l'idée d'aller naviguer les super mondes, t'as toujours pas de moteur de recherche cohérent à part littéralement chercher le profil d'un créateur pour aller voir son super monde.
Mais je pense que c'est ça. Pour moi, c'est l'astuce que je voulais vous donner, c'est aller voir sur YouTube. Mmh. Alors, faut que je retrouve son nom. Il y en a un qui s'appelle Bear quelque chose, qui fait énormément de vidéos de Mario Maker.
Est-ce que c'est Bearware? Est-ce que c'est Grand Poubert? J'en connais pas mal des Bears qui font des Mario.
Bearware, peut-être.
Bearware est plus dans la création de Troll Levels, ceci dit. Donc, c'est une communauté dans la communauté. Hein. Les Troll Levels, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est des niveaux qui te font croire que tu fais quelque chose de correct et en fait qui te fait mourir bêtement et tu dois jouer contre le level design qui te piège à chaque fois. C'est très très drôle.
Alors, donc, c'est Bird Bear. Voilà,
Bird Bear. Je ne connaissais pas.
Qui est donc un YouTuber qui est vraiment spécialisé. Enfin, moi, je connais que pour du Mario Maker 2. J'adore regarder ça. C'est il teste vraiment plein de jeux, plein de niveaux et tout. Et du coup, vous pouvez voir s'il y a un monde qui vous intéresse. Et c'est comme ça que j'ai découvert, du coup, un super monde, du coup, qui est absolument génial. Qui est le super monde de Sean Dreyer. Donc, Sean comme S-E-A-N et Dreyer D-R-E. YER, qui a donc recréé Mario 64 en 2D en fait.
Avec
une traduction, littéralement une traduction de la 3D en 2D, vraiment brillante, c'est-à-dire qu'il remplace les étoiles par les pièces rouges, donc il y en a un petit peu moins, mais ça fonctionne hyper bien. Et c'est passionnant. Et c'est vraiment passionnant, il est très intéressant à faire. Et on trouve vraiment des super mondes très intéressants. Je suis très content qu'ils aient rajouté cette fonctionnalité. En revanche, je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas de nouvelles. Nouvelle skin finalement, c'est un petit peu dommage. On a déjà parlé dans la cartouche des fantasmes qu'on avait en termes de DLC. Bon, a priori ça se fera pas, mais voilà, il y a encore de très belles choses à Mario Maker, donc 2. Si vous voulez pas lancer depuis longtemps, intéressez-vous à ça et allez voir Bird Bear qui donc teste plein de super mondes pour vous donner un petit peu envie et de trouver les bons créateurs. Je trouve que c'est une bonne façon.
Eh bien, le nom et le lien seront disponibles dans la description de l'épisode. Je voulais te demander, mon cher Lou, t'en es où dans Paper Mario ?
Ah, je suis pas très très loin encore. J'ai fini le premier monde, waouh, le ruban rouge. Je suis sur ma quête du ruban bleu et j'ai décidé de faire une pause puisque je suis arrivé à Shogunland.
Shogunland.
Je ne sais rien du tout de Shogunland, je suis devant l'entrée. Je me suis arrêté pile poil là, je me suis dit, ah ça c'est pour le prochain épisode de Let's Play. Je m'arrête devant parce que je sens que ça va être très sympa. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le gameplay des combats, me dérange vraiment pas parce que je trouve très rapide en fait finalement quand tu... j'aime bien ce côté réflexion, il y a une vraie réflexion sur du temps et des fois je me dis putain mais je suis con, j'arrive pas à trouver la solution et tout. Non mais c'est vrai et c'est très plus j'y joue plus je trouve bien foutu le fait que tu augmentes ta puissance, donc il y a quand même un petit côté RPG finalement parce que tu peux booster ta puissance en trouvant les fameux cœur plus max machin truc là, donc en chopant des Toads aussi généralement en essayant de trouver des Toads, donc ça te pousse vraiment à explorer. Donc non il est vraiment très bien conçu. Plus j'y joue, plus je trouve que vraiment il est très très bien. Il est peut-être pas au niveau des deux premiers, mais il est encore mieux que ce que je pensais en le commençant en fait. Plus j'y joue, plus je le trouve réussi. Et ça c'est cool.
Oui. D'ailleurs, je vais te faire écouter un truc qui est relativement en relation avec ça. Tu vas me dire si tu devines ce que c'est. Est-ce que tu as deviné ce que c'est ?
Je sais pas, ça me fait penser à Mario Kart, bizarrement.
Alors, c'est le thème de combat de Origami King.
Ouais.
Mais refait avec les instruments du premier Paper Mario sur Nintendo 64.
Hein. Ah !
Ce
C'est génial.
C'est sur la chaîne YouTube Silva Gunner avec plein de... Enfin, c'est le principe de la chaîne Silva Gunner, c'est-à-dire c'est du mash-up. De tantôt, c'est des mélodies de certains jeux avec les instruments de certains autres. Parfois, c'est des remixes un petit peu débiles. Parfois, ça mélange également de la pop culture. Par exemple, j'adore sur Silva Gunner un remix qui mélange à la fois le thème des Game & Watch de Smash Bros avec Shake It Off de Taylor Swift. Donc, il y a du très très bon matos là-dessus, et j'ai pensé à toi en entendant justement ce mashup Paper Mario versus Paper Mario là-dessus. Puis tant qu'à parler de mashup, rapidement, je vais plugger une vidéo sur YouTube. Une vidéo, chers amis, qui dure 18 minutes. C'est Rhythm Heaven Reanimated. Et c'est un hommage à toute la série des Rhythm Heaven, donc des Rhythm Paradise, la série de jeux de rythme de Nintendo, dirigée par l'artiste Tsunku, et plus ou moins développée par, en gros, les gens derrière WarioWare. C'est très fun en tant que tel. Bah là, c'est donc un hommage en 18 minutes avec plein de gens qui ont fait de l'animation pour coller à certains rythmes, et notamment à certains remix connus de la licence. Un petit peu, c'est à peu près un de chaque jeu en fait, et donc mis bout à bout, ça fait une vidéo de 18 minutes. C'est inventif, très bien fait, très fun. Si vous aimez la série des Rhythm Paradise, si vous avez joué à l'un d'entre eux, vous allez kiffer cette vidéo qui vraiment rend un très bel hommage à une série qui est haut dans mon cœur et possiblement haut dans le vôtre aussi.
Voilà. Bah, je t'avoue que j'étais un petit peu déçu en voyant ceci dans le conducteur de la cartouche. Pourquoi ? Parce que je croyais qu'il y avait un nouveau Resident Evil.
Si seulement Nintendo sort du bois, fait un Nintendo Direct.
J'ai cliqué, j'ai fait waouh, le trailer. Non, dommage. Donc oui, je m'attendais vraiment à un trailer d'un nouveau Resident Evil. Et non, c'est vrai que c'est un jeu qui était très très drôle, et c'est une espèce de jeu concept tout à fait zinzin qui mériterait vraiment une suite.
Ouais, qui a le droit à son jeu hommage sur 3DS, sa grande compile avec un petit peu d'inédit, et pour être honnête, ça sentait un peu la fin de règne hein, quand ils l'ont sorti comme ça. Donc j'espère qu'ils en feront quand même quelque chose d'autre dans le turfu. Dernier point, alors là aussi, qui sent peut-être un peu la fin de règne. Final Fantasy Crystal Chronicles, c'est quoi le sous-titre ? C'est HD Remastered ? Je sais même plus.
Remastered, je crois. Bon, j'en parle depuis des mois sur la cartouche, donc c'est vrai que j'attendais énormément. C'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup marqué. Beaucoup pour sa DA, en fait. Je trouvais sa DA très, 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 très réussie à l'époque. Et je me dis, je vais l'acheter Day One. J'ai eu des petits problèmes de thunes, c'était la semaine dernière, donc j'en ai toujours un petit peu, mais j'ai préféré attendre du coup d'avoir mon salaire pour me l'acheter, si bien que je ne l'ai toujours pas acheté, et j'en ai profité pour lire les tests, et c'est vrai que bon, les tests sont pas hyper enthousiastes. Ce qui est pas enthousiaste, c'est que je trouve personne pour jouer avec moi. J'avais fait des appels sur Twitter, tout ça, machin, pas trop.
Désolé.
Non, mais pas de souci. Hein. J'ai vraiment mendié pour qu'on puisse jouer avec moi à ce jeu. Mais bon, je jouerai avec des inconnus, c'est pas grave. Mais c'est vrai que l'expérience multijoueur est extrêmement importante dans le jeu. Donc c'est une composante très importante. Et le fait que le local ne soit plus là, ça participe aussi à au fait que ce soit un peu moins intéressant. Je vais quand même l'acheter, je vais quand même y jouer parce que j'ai quand même envie de le refaire, à voir si je vais vraiment méga m'y investir. Mais je pense qu'il va pas marcher. C'est dommage parce que il y avait eu un WiiWare qui s'appelait My Life as a King, si je me souviens bien, qui était extrêmement intéressant, qui avait un gameplay extrêmement particulier. C'est-à-dire que tu construisais une ville, tu aménageais une ville avec des petits bâtiments, dans lesquels tes aventuriers en fait allaient s'équiper, hein, que ce soit les mages, les combattants, etc. Ils achetaient des magies, des soins, tout ça, et ils partaient à l'aventure et tu les gérais pas du tout dans leurs aventures en fait. C'est ça qui était assez drôle. C'était un gameplay vraiment relativement passif, je dirais, mais intéressant à suivre pour autant. Enfin, moi, il m'a passionné pendant des heures et des heures, My Life as a King, et j'aimerais bien le revoir aussi. Et peut-être que ça aurait été une bonne introduction finalement au retour de Final Fantasy Crystal Chronicles, peut-être plutôt de passer sur un petit jeu comme ça qui se prêterait bien au mobile là encore, ou voilà, une sortie sur Switch ou même sur Steam à bas prix, mais peut-être que ça aurait été bien pour amorcer plutôt que de ressortir Crystal Chronicles directement, je sais pas trop. pas expert, hein, c'est pas moi qui poche chez eux. Ils ont probablement des bonnes raisons de sortir ça. Mais je suis un peu embêté. Donc je vais quand même le prendre. Mmh. J'espère que je serai pas trop déçu en y rejouant, parce qu'il y a des jeux comme ça qu'on refait, on se dit tiens, mais pourquoi je les aimais bien, parce que c'est vrai que le gameplay n'est pas non plus hyper poussé, mais voilà, j'appréhende, donc vous en saurez plus certainement quand je l'aurai et qu'on pourra en parler dans la cartouche
dans quelques semaines. Allez, ciao ciao.
Salut.